C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur Giuseppe Verdi, 1813-1901. Musicien, italien, catholique, hétérosexuel. Œuvre La Traviata, créée au Théâtre de la Fenice à Venise en 1853. Personnage Violetta Valeri. Adaptation, l'opéra est une adaptation d'une pièce de théâtre d'Alexandre Dumas fils, La Dame aux Camélias, 1852, tirée par lui-même de son roman du même titre en 1848. Deux films d'après l'opéra en 1968 et 1983. À l'origine du personnage de Violetta Valeri dans La Traviata de Verdi, il y a donc celui de Marguerite Gautier dans le roman, puis la pièce d'Alexandre Dumas fils, La Dame aux Camélias. Le roman commence avec le narrateur visitant une vente de meubles dans l'appartement d'une femme morte, une femme entretenue, dit-il. Dieu avait été clément pour elle, puisqu'il n'avait pas permis qu'elle en arrivât au châtiment ordinaire et qu'il l'avait laissée mourir dans son luxe et sa beauté avant la vieillesse, cette première mort des courtisanes. Et il ajoute, « En effet, quoi de plus triste à voir que la vieillesse du vice, surtout chez la femme, surtout chez la femme ?» Dumas fils vénérait Manon Lescaut, autre histoire de punition d'une courtisane. Il est intéressant de voir ce que les hommes hétérosexuels ont décidé comme étant punissable. Chez les femmes, la libre disposition de leur corps en matière de plaisir. Chez les hommes, jamais cela, mais le vol, l'atteinte à la propriété. À eux, la caisse et la culotte. Ce que c'est que d'être un fils illégitime tout de même. Alexandre Dumas père avait eu cet enfant d'une couturière qui habitait dans son immeuble hors mariage. Au lieu de s'en féliciter et de voir comment, illégitime, on pouvait réussir dans la vie, car il a eu beaucoup de succès, Dumas fils semble n'avoir eu de cesse que de conspuer les amours illégales, car ce mot me semble plus exact qu'illégitime. On ne voit pas bien ce que la légitimité, cette notion douteuse, vient faire dans les lits. Comme tous les moralisateurs, Dumas fils avait un penchant voyeuriste vers ce qu'il rejetait. Il a écrit une pièce intitulée « Le demi-monde », une autre « Le fils naturel », une autre « Un père prodigue ». Et cette dame aux camélias, colportant la légende que l'amour physique libre n'est admissible qu'expié. Le christianisme pouvait être content, la fable de Marie-Madeleine était ravivée. Qu'a fait Verdi du personnage de Marguerite Gautier en changeant son nom? Qui est la Traviata? Pour en parler, et à l'occasion de la programmation de l'œuvre de Verdi au Palais Garnier, je reçois Olivier Bellamy, journaliste à Classica, animateur sur Radio Classique, écrivain, dont le dernier livre, L'automne avec Brahms, vient de paraître chez Buchet-Chastel. Olivier Bellamy, à quoi ressemble physiquement Violetta Valeri, la Traviata, si tant est qu'il y ait la moindre indication de scène à ce sujet?
Moi, je pense qu'elle est jeune. Je pense qu'elle est... C'est un personnage qui est tragique. Nous sommes dans le mélodrame flamboyant. Elle est belle, elle est jeune, elle sait qu'elle va mourir dès le début, et ce qui lui donne une liberté totale. Évidemment, elle est, comme vous l'avez rappelé dans votre préambule, sous le joug de la société, mais personne n'est libre. Ils sont tous sous le joug de la société. Le fils, l'amoureux de Violetta ne peut pas faire ce qu'il veut. Le père ne peut pas faire ce qu'il veut. Il incarne la morale bourgeoise qui probablement ne lui plaît pas beaucoup, mais il est obligé de l'incarner. Et puis Violetta, eh bien, c'est une cocotte, c'est une demi-mondaine qui a transgressé un peu l'ordre, mais qui reste quand même dans l'acceptable. Ce n'est pas une prostituée, elle est dans un entre-deux. Et puis, pour racheter ses fautes, de manière chrétienne, si l'on veut, eh bien, il y a l'amour. Ça, c'est la grande idée du 19e siècle. Hein. C'est l'amour salvateur. Mais dépassons les schémas et les clichés. Je sais que vous les exécrez, Charles Danzig. Moi, je crois que c'est cet amour qui est unique entre les deux.
Vous allez trop vite, Olivier Bellamy. On va y arriver. Je voudrais qu'on avance d'abord un peu plus lentement dans le personnage de Violetta. Si je parlais du physique, c'est que ce qui me paraît intéressant, c'est que l'opéra qui semble si féerique est, pour ce qui est du physique des personnages, finalement beaucoup plus authentique que le cinéma. Et je dis ça parce que on a vu Combien a-t-on vu de cantatrices obèses à qui le ténor chante qu'elle est sublime? Et elle l'est, en fait, comme dans la vie. Des hommes peuvent trouver des femmes grosses, belles, et au fond, l'opéra, de cette façon-là, est plus réaliste. Et d'ailleurs, est-ce que Montserrat Caballé, qui n'était pas d'une beauté physique extraordinaire, n'a pas été une Traviata extraordinaire?
Je pense que l'opéra n'est pas réaliste. L'opéra est une idéalisation. Le roman me semble beaucoup plus réaliste, si on veut comparer le roman avec l'opéra. Dans le roman, surtout du 19e siècle, qui est quand même l'apogée du grand roman, Balzac, Zola, bon, évidemment, c'est extrêmement réaliste. L'opéra, c'est une idéalisation. Les personnages chantent, on ne chante pas dans la vie. Donc quand on veut essayer de tirer la mise en scène vers la vie, on oublie cette chose essentielle, c'est que l'opéra, c'est une convention sublime qui est qu'on accepte de voir des personnages chanter ce qu'ils ne font pas dans la vie et qu'ils vont nous faire pleurer puisqu'on est dans le cadre du mélodrame flamboyant à la Douglas Sirk. Ce qui est le plus proche, en fait, de l'opéra, autant qu'esthétique, ce serait un mélo de Douglas Sirk. Si l'on ne pleure pas à la fin de Traviata, c'est que c'est raté.
Oui, mais vous avez tout à fait raison. Mais est-ce que vous ne pensez pas quand même que le fait que les interprètes soient parfois imparfaites physiquement est un élément non pas de réalisme, mais d'authenticité comme dans la vie? Parce qu'effectivement, il y a cette part d'idéalisation. Mais dans un film de Douglas Sirk, les actrices sont sublimement belles. Dans l'opéra, pas nécessairement.
Vous avez tout à fait raison. C'est la perversion du cinéma. Maintenant, on veut, même au théâtre, on veut des gens vus à la télé, vus au cinéma, etc. Moi, je trouve que, à l'opéra, c'est encore un des derniers lieux au monde où on peut être gros, obèse et sublime. Et je pense que Maria Callas a perdu la moitié de son poids en 1954 parce que c'était l'époque qui le voulait. Et je pense qu'elle le voulait, elle, personnellement. Mais elle aurait pu continuer à être grosse. Montserrat Caballé a fait pleurer la terre entière avec ça.
Il faudrait dire ce qui arrive dans l'opéra à Violetta Valeri. Est-ce que Verdi et son librettiste, dont on parlera après, ont changé beaucoup de choses par rapport au roman? Et en tout cas, qu'arrive-t-il? Quelles sont les aventures de Violetta Valeri?
D'abord, c'est une histoire intime de Verdi. Elle s'appelle Violetta Valeri, alors que normalement, elle s'appelait le vrai personnage, c'est intéressant, Alphonsine Plessis, qui devient Marie Duplessis. C'est le pseudonyme qu'elle se choisit quand elle devient cocotte. Ensuite, c'est Marguerite Gauthier, dans le personnage vu par Alexandre Dumas, fils, qui l'a connu, qui a très bien connu ce personnage-là. Lequel personnage a eu une aventure avec Franz Liszt aussi. C'est dire, quand même, ça a été un personnage assez considérable.
Elle était belle?
Je pense qu'elle était très très belle. J'en suis même sûr, enfin pour les canons et les gouttes de l'époque. Ensuite, elle a la maladie du siècle, c'est-à-dire la phtisie, la tuberculose, et donc elle est condamnée et elle meurt, le personnage meurt à l'âge de 23-25 ans, enfin quelque chose comme ça.
Donc c'est une courtisane.
Voilà, et donc
à
le
Paris.
Principe d'une courtisane, c'est elle peut avoir beaucoup d'argent, la seule chose qu'elle ne peut pas faire, c'est embrasser sur la bouche, c'est-à-dire tomber amoureuse. C'est la seule chose qu'elle ne peut pas faire. De la même manière que Orphée ne peut pas se retourner pour voir Eurydice. Chacun a quelque chose qu'il ne peut pas faire. Elle ne doit pas tomber amoureuse. Elle tombe amoureuse du fils
de Germont.
Amour partagé. Ils vivent un grand amour. Et puis, à un moment donné, elle va se sacrifier. Alors c'est vraiment l'acmé de Léo Delibes, enfin c'est le point central dans l'opéra, c'est la scène du sacrifice. Le père Germont vient lui demander, alors évidemment on peut critiquer, on peut trouver ce père un peu plan-plan, mais en même temps on peut être extrêmement, moi je trouve que c'est une des scènes les plus émouvantes. Le père lui demande de se sacrifier sur l'autel de la morale bourgeoise. Le fils ne peut pas vivre avec une femme entretenue, il doit se marier, ensuite il pourra faire toutes les culbutes qu'il veut, mais il doit se marier, et pour qu'il se marie, il doit avoir une réputation sans tache.
Et donc elle se sacrifie.
Et elle accepte. Elle lutte d'abord. Elle n'accepte pas. Et c'est une scène. Mais c'est là tout le génie de Verdi Et ça se termine, elle accepte sur ce dîner à la Giovine, dîner à la jeune fille, etc. Où pratiquement c'est un lambeau de mélodie, elle n'a plus de volonté, Violetta, et elle est comme le taureau dans l'arène, et ça y est, qui est sacrifié.
Et donc, elle revient à Paris.
Voilà.
Elle est atteinte de maladie néanmoins.
Oui.
Et elle meurt.
Et elle meurt.
Tout en retrouvant quand même...
Elle meurt, mais elle était condamnée. Hein. Elle était condamnée par la tuberculose.
Mais le fils Germont vient la retrouver à la fin néanmoins.
Mais ce qui est beau, ce qui nous fait pleurer, c'est que c'est l'amour. C'est qu'elle s'est autorisée cette parenthèse. C'est-à-dire que, évidemment qu'elle va mourir. Alors, dans le roman, je crois qu'elle meurt seule, vraiment misérable. Mais dans l'opéra, et c'est pas qu'une idéalisation, je crois que c'est l'amour qui vous donne ça. Elle a son fiancé qui vient, elle meurt entourée, et elle meurt grandiose, elle meurt sanctifiée.
Ce qui est très beau, c'est qu'elle meurt en se croyant sauvée, parce que ses dernières paroles sont cette étrange, les spasmes de la douleur ont passé, je reviens à la vie, ô joie. Elle meurt en croyant qu'elle a un regain de santé, et elle meurt.
Ça, c'est ce que les médecins appellent l'euphorie. Et c'est médicalement, c'est très vrai, parce qu'elle retrouve, elle n'a plus qu'une voix anémiée au début, quand elle chante son grand Addio del Passato. C'est un filet de voix. D'ailleurs, Maria Callas le chantait avec un filet de voix. Elle était critiquée, elle a plus de voix. Mais elle dit, cette femme va mourir, elle expire, c'est évident. Mais elle retrouve à la fin de l'opéra, ce que les médecins savent très bien, c'est qu'avant de mourir, tout d'un coup, il y a une période d'euphorie. Et donc scientifiquement c'est tout à fait juste, et d'ailleurs Visconti, qui avait mis en scène Maria Callas en 1955 à la Scala de Milan, la faisait mourir debout. Donc femme debout, n'insultez pas une femme qui tombe, disait Victor Hugo. Et bien là, la Traviata, la Cocotte, la femme entretenue, meurt debout. Elle est donc, c'est l'amour et la mort, grande idée romantique qui la sauve.
Et la Traviata, c'est le surnom qui est donné à Violetta. Alors, je voudrais préciser qu'il vient du verbe italien traviare, qui veut dire dévier du droit chemin en particulier. Elle est donc la dévoyée. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est Violetta qui se donne ce surnom péjoratif à elle-même, dans un des plus beaux airs, celui que vous venez de citer, la Dio del Passato. Ad la Traviata sorrido al desio, a souri au désir de la dévoyée. Et il y a une espèce d'ironie désolée quand elle dit ça. Elle-même se désigne comme étant une dévoyée.
Ben oui, comme certains homosexuels se disaient être des pervers. Vladimir Horowitz parlait volontiers de lui avec une certaine coquetterie même, disait qu'il était pervers. Elle sait très bien comment la société la juge. La société la tolère, mais à condition qu'elle reste dans sa case. Elle est une dévoyée, mais elle est dans sa case comme une...
Elle est dans sa cave comme un noir ou un gay quand ils s'appropriaient l'injure qu'on leur faisait en se disant eux-mêmes « je suis un nègre ou un pédé ». Au fond, c'est la négresse de l'amour.
C'est exactement ça.
Nous allons maintenant entendre une des grandes interprètes du rôle de Violetta, dont Olivier Bellamy vient de parler, Maria Callas, dans le duo Parigi-Occar avec le ténor Giuseppe Di Stefano. Ils sont dirigés par Carlo Maria Giulini, c'était à la Scala de Milan en 1955.
Thank you.
Olivier Bellamy, dans l'extrait que nous venons d'entendre, c'est donc Maria Callas qui chante. Pourquoi a-t-elle été, à votre estime, une des grandes Traviata?
D'abord, le Traviata, c'est un rôle impossible. Toutes les chanteuses disent qu'il faut non pas avoir une voix pour Traviata, il faut avoir trois voix. Les trois actes, dans le premier acte, comme ça, c'est soprano coloratour, ensuite soprano lyrique, soprano dramatique. Il faut vraiment avoir plusieurs voix. Quand on dit trois, en fait, il en faut beaucoup, beaucoup plus. Donc c'est un rôle terrible.
Je crois que les critiques du temps surnommaient, vous allez me dire si c'est vrai, Verdi l'Attila des voix. J'ai lu ça.
Oui. Alors, Maria Callas avait d'abord un très large registre. Elle avait à la fois le génie dramatique, elle avait la coloratour, la voix lyrique, la voix dramatique. Elle avait tout. C'est une des rares à avoir tout ça. Mais évidemment, c'est cette puissance dramatique. Mais il n'y a pas que cela. Pour Verdi, la Traviata, c'est quelque chose d'extrêmement profond. Il vivait avec la Streponi à cette époque-là, et quand il est retourné village,
il vivait avec une ancienne femme sans qu'il soit marié.
Voilà, une ancienne chanteuse sans qu'il soit. Donc, il bafouait la morale religieuse italienne de l'époque. Et quand il est retourné dans son village, c'est tout juste si on ne l'a pas accueilli avec des pierres. Donc, Verdi a été, mais humilié, profondément mortifié de cela. Donc, si il s'est intéressé aussi à ce personnage, c'est que ce personnage le touchait profondément, de manière intime. Et Maria Callas a incarné, je crois, ce personnage aussi. Pierre Jérémy disait que c'était le plus proche d'elle-même, mais je pense qu'il a raison, dans le sens où c'est une femme qui vit à travers les autres. C'est la Traviata, c'est la dévoyée. Et on peut dire que c'est une métaphore de l'artiste, parce que l'artiste est porté au plus haut, et puis si vous faites une fausse note, tout d'un coup, vous êtes hué, vous êtes la dernière des dernières, comme l'a été Maria Callas en 58 à l'Opéra de Rome, quand elle était aphone et qu'elle n'a pas pu chanter devant le président de la République italienne. C'est aussi une métaphore aussi de la femme qu'on porte. Enfin, c'est la maman et la putain, quoi. C'est tout cela. Donc c'est extrêmement riche sur le plan symbolique.
Est-ce que tout ça n'est pas appelé aussi par Verdi lui-même, je veux dire par sa musique? Il aimait l'expressivité, il poussait ça. Et est-ce qu'il n'a pas lui-même changé ça? C'est vous le spécialiste et à vous de me le dire. Mais il me semble qu'avant, les compositeurs mettaient surtout en avant la virtuosité et la beauté. Et lui, pour Verdi, le drame comptait. Donc il écrivait aussi en faisant très attention à l'intensité, au phrasé. Et la Traviata, il y a une chose très singulière, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de récitatif parlé. Tout est comme une lente mélodie, un lent chant, c'est aussi... Non ?
Charles, moi je ne suis pas un spécialiste, je suis un amateur. J'aime la Traviata. Pour moi, c'est l'un des plus grands opéras qui n'ait jamais été fait, parce que chaque note, c'est comme Carmen, c'est comme Don Giovanni, c'est comme Les Noces de Figaro, c'est comme Tosca. Chaque note est inspirée. Dans Traviata, c'est jeune, c'est toujours inspiré, c'est toujours neuf, c'est toujours, il invente tout.
Non, puis surtout, je voulais dire, il n'y a rien d'inutile dans la musique de Verdi. Ça rappelle un peu ce que disait Proust dans mon roman, il n'y a pas un personnage qui enlève un par-dessus pour rien.
Oui.
Et c'est un peu ça, non?
Et Proust parlait toujours des personnages. On lui parlait de son style, des pensées, etc. Lui, pour lui, le plus important dans La Recherche du Temps Perdu, c'était les personnages. D'où c'est vrai, l'importance du thème même de votre émission aussi. Parce que ce qui nous touche, c'est de la même manière que Carmen. On peut dire tout ce qu'on veut de Don Giovanni, que c'est un salaud, que c'est un type magnifique. On peut en dire, c'est un mythe. Point à la ligne. Carmen, c'est pareil. Ils incarnent la liberté. Alors après, les époques changent, les morales changent, mais Traviata, évidemment, les morales, la morale d'aujourd'hui n'est plus la morale d'hier. Aujourd'hui, peut-être que maintenant, comme on punit les clients des prostituées pour bon maintenant peut-être qu'on punirait le fils Germont
et mais non pas Traviata. Moyennant quoi par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Olivier Bellamy, il y a une chose que Verdi et son librettiste Piave ont apporté, c'est que justement ça n'est pas la punition du vice, au contraire du roman Traviata. Violetta Valéry n'est pas Marguerite Gautier. Il y a quelque chose de très moralisateur chez Dumas. Oh là là, la prostituée punie, c'est pas ça du tout Traviata. C'est l'amour, comme vous disiez. Ouais. C'est quelque chose de presque christique.
Absolument. C'est Marie-Madeleine, vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a quelque chose de profondément chrétien. Mais chrétien, pardonnez-moi, mais sans le dogme. C'est-à-dire chrétien, ce qui nous touche tous profondément. Ce qui nous rattache tous profondément. C'est l'essence de notre civilisation judéo-chrétienne à tous. Et si nous pleurons tous à Traviata, c'est parce que, évidemment, elle représente ce personnage fondateur.
Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que les féministes devraient dresser des statues à Verdi? Parce que cette interprétation, qu'on ne peut pas dire libérale, mais au fond très humaine d'une courtisane, c'était vraiment pas la mode dans l'opéra à l'époque. Parce que la femme corruptrice dans l'opéra, c'est inouï. Carmen, 1875. Dalila dans Le Sanson et Dalila de Saint-Saëns, 1877. Il y a une courtisane maléfique dans Les Contes d'Hoffmann d'Offenbach en 81. La Thaïs de Massenet en 94. Bien sûr, la bohème de Puccini en 96. Et tout d'un coup, il y a une espèce de charrette de femme corruptrice là, ce que n'est pas Violetta, et je pense qu'on ne le reconnaît pas assez.
Il y a les deux, les féministes, laissons-les parler, mais de toute façon, je pense qu'elles n'aiment pas du tout cette représentation de la femme victime.
Oui, mais elle n'est pas complètement victime, enfin.
Oui, voyez, évidemment. Ah oui, complètement. Mais il y a quelque chose aussi enfin moi ce que je trouve c'est qu'il y a dans ce personnage-là une liberté totale et finalement elle va au bout de son destin et elle y va sciemment et elle choisit exactement comme Carmen va au devant de la mort. Là elle choisit Traviata de mourir par amour et elle voilà et elle donc elle parce que finalement cette parenthèse qu'elle s'accorde précipite sa chute. Mais quelle chute
et en même temps quelle compassion on peut avoir pour elle, parce que tout ce qu'on comprend au fur et à mesure que l'opéra se déroule, c'est qu'elle est injustement traitée par la société.
Oui, c'est, je ne veux pas faire de comparaison qui soit mal interprétée, mais c'est comme le taureau dans la corrida.
Oui, vous l'avez
certains
dit.
Vont dire je ne compare pas la femme à un animal, attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, mais la comparaison s'impose. Il y a quelque chose de l'ordre du sacré. Et par contre, ceux qui défendent les animaux vont dire ah ben non, c'est des, et les autres vont dire mais oui, mais on élève tout d'un coup le taureau, il y a une sorte d'égalité face au taureau.
À ceci près que l'opéra n'a pas la volonté de faire son sacrifice.
Oui, sauf que le public d'opéra est bien souvent un public d'arène.
Alors où ça, oui.
Encore une fois, on est dans l'idéalisation. Donc
est-ce qu'il existe des claques encore? Dans des opéras,
oui,
dans le monde.
Bien sûr. À la Scala de Milan, Roberto Lagna en a fait les frais. Hein. Mais bon, c'est en train de se perdre. Alors évidemment, c'est on va dire que c'est un peu mieux. Et puis bientôt, il va y avoir des nostalgiques.
Olivier Bellamy, il y a une deuxième héroïne dans La Traviata, c'est Paris. Et c'est comme tant d'autres opéras, comme La Bohème dont on parlait tout à l'heure, un opéra de Paris et de la cruauté de Paris. Au début, il y a un air très beau où Violetta se dit ou se chante abandonné dans ce désert peuplé qu'on appelle Paris.
Oui. Vous avez tout à fait raison, et ce n'est pas assez souvent signalé, c'est la cruauté de Paris. Ça ne pourrait pas être dans une autre ville que cela, parce que c'est la ville des plaisirs, la ville des lumières, et cette ville quand même où ça pétille quand même beaucoup, où l'esprit est quand même vif et où tout est possible.
Et l'opéra commence par une fête.
Et absolument.
Et l'opéra commence par une fête. Et cette ville des plaisirs, évidemment, vous avez dit tout à l'heure que Verdi vivait avec une femme sans être marié. C'est à Paris que Verdi a vécu la plupart de sa carrière, n'est-ce pas?
Oui, absolument.
Et alors, ce qui est important aussi, c'est la période de composition, et d'ailleurs l'opéra est presque contemporain du moment où il a été écrit, c'est que tout ça se passe après les révolutions de 48 qui ont été écrasées partout, et à Paris en particulier, il ne reste plus que les plaisirs. La politique est interdite, on ne peut plus rien dire, c'est le Second Empire qui est un régime autoritaire, et donc l'exacerbation ne peut plus se faire que par le plaisir, non ?
Mais oui.
Traviata ne peut pas être Louise Michel, il n'y a plus de Louise Michel, donc il y a Traviata.
Non, mais on est dans l'époque d'Offenbach, hein. Soyons gays, il le faut, je le veux, hein. C'est vraiment toute cette époque-là où il faut absolument, où on vit entre deux volcans, où on vit entre deux guerres, deux changements de gouvernement, et comment faire? Eh bien, s'étourdir par le plaisir et par la superficialité. Mais c'est très beau, ça. Moi, j'aime beaucoup ça.
Alors, j'ai dit tout à l'heure que la première représentation était la Fanitch en 1853, et cette première représentation a été un échec. À cause des interprètes.
Alors, parce qu'on a beaucoup dit, peut-être la nouveauté, mais je crois que Verdi a toujours eu du mal avec ses opéras, parce que c'était quand même un génie face à une chose de convention où il fallait débiter de l'aria et du récitatif en tranches, hein, et puis provoquer des émotions rapidement. Et lui avait quelque chose de tout à fait nouveau. Mais je crois que c'était surtout l'interprète principal qui n'était pas du niveau.
Après le roman et le théâtre moralisateur, après l'opéra, l'idée de la courtisane qui expie pour telle ou telle raison est descendue, me semble-t-il, dans la chanson populaire, car le moralisme a beaucoup de troupes supplétives. Est-ce qu'Olivier Bellamy, une descendante de Violetta, ne serait-elle pas, par exemple, la prostituée qui réclame du tabac dans la chanson « Du gris » de Bert Silva, « Monsieur le docteur, c'est grave ma blessure ».
Ah, c'est magnifique ça. Dans une mise en scène récente à l'Opéra de Paris, de Simon Stone, il a fait ça avec les réseaux sociaux, un petit peu comme une femme mannequin. Je trouve que c'est assez astucieux. Alors évidemment, c'est un peu lourdingue. Au début, on trouve ça astucieux, et après, ça nous éloigne du drame et du cœur. Le type, on dit, bon, on attend pour voir comment est-ce qu'il va faire. En fait, il attire l'attention sur lui et sur son habileté, plus que sur les personnages. Et finalement, ça sacrifie un peu les chanteurs et le drame. Mais c'est probablement ça. C'est très finement trouvé. Hein. C'est aujourd'hui, ce serait, oui, je sais pas moi, une mannequin qui est sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est assez juste, je trouve.
Olivier Bellamy, que vous a appris le personnage de Violetta Valéry ?
Qu'il faut aimer. L'amour sauve. Alors, j'avais peut-être pas besoin, mais ça nous le rappelle. Et c'est très, à la fois christique et romantique. Encore une fois, hors du dogme, hein. Oublions toute la morale judéo-chrétienne qui a empoisonné notre enfance pour ne retenir que le message sublime du Christ, à savoir aimez-vous les uns les autres. Et aimez-vous, c'est l'amour l'important.
C'était Personnage en personne, le 92e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage du soldat Shveik, créé par Jaroslav Hašek dans Les aventures du brave soldat Shveik.
Comme si j'étais assis là-haut au paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, attaché de production Meryl Moneghetti, prise de son Claire Levasseur.
De ma vie, le paradis acquis.
Dans un instant, Victor Massé de l'Épinay et le rayon BD.
Grand jeudi, tous les jours, paradis. De l'autre côté.